voix nue. Toute cette semaine, Corinne Renoux-Nativelle rencontre Michel Oslo. Ce soir, début difficile d'une carrière dans le cinéma d'animation.
Bonsoir Michel Oslo.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons évoqué votre enfance, en Afrique notamment, et votre formation. Ce soir, nous allons parler de vos débuts difficiles dans le cinéma d'animation. Alors en 68, à 25 ans, vous êtes de retour de Los Angeles où vous avez été étudiant pendant une année. Vous n'avez pas vraiment fait de cinéma d'animation ni appris à en faire. Et c'est étrangement au service militaire que vous allez faire vos débuts dans ce secteur, comme matelot au cinéma des armées à Ivry-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous en arrivez là ?
Alors, tous mes contemporains essayaient d'éviter les services militaires, commettaient toutes sortes de sottises, quelquefois graves, pour l'éviter. Et moi, j'avais envie de le faire, parce que tous mes prédécesseurs l'avaient fait. Et j'ai un côté explorateur, et je voulais aussi connaître les services militaires. Mais pas n'importe quoi. Et quand j'étais à Los Angeles, je me suis bien préparé. J'ai envoyé toutes sortes de demandes et j'ai demandé à diverses personnes à Los Angeles de me faire des lettres de recommandation. Quand c'était en anglais, c'est moi qui les traduisais d'une manière très positive. Je demandais au consulat des tampons qui faisaient bien. Et l'armée française a compris. Et m'a mis au fort d'Ivry, qui est le fort du cinéma. Alors j'avais demandé l'aviation parce que j'aime bien les avions. Alors on m'a mis dans la marine. Et un jour, je me suis vu dans un miroir, j'étais habillé en matelot. C'était très drôle et je n'y voyais pas d'inconvénient. Comme c'était à Paris, dans la banlieue de Paris, au bout d'un moment, j'avais le droit de rentrer chez moi. Quelquefois, je ne rentrais pas parce que je me trouvais très bien à la caserne. Je dormais comme tout le monde, le petit déjeuner était prêt. À l'automne, on mangeait des murs parce qu'il y avait toute une végétation sur les murailles du fort. En été, on prenait des bains de soleil. Au printemps, il y avait des fleurs.
Tout allait bien.
Tous les matins, je savais comment m'habiller. C'est très, très commode.
Un problème de moins.
Et je n'avais aucune responsabilité. Jusque-là, j'avais dû travailler, obtenir des examens, des bourses. Là, rien. Les gens pensaient à ma place. Et ça a été un très bon moment. Quand je suis parti, j'étais content de partir, mais je l'ai pris comme des colonies de vacances. Et alors, j'ai commencé par casser des cailloux sur la route, et il y avait un vieux monsieur tout faible qui nous montrait comment il fallait faire. Nous, jeunes et musclés, on n'y arrivait pas, et lui y arrivait. Ouais, c'était une bonne leçon. Ensuite, j'ai été demoiselle du téléphone, j'étais très mauvais. On m'a vite enlevé de là. Et ensuite, j'ai fait aussi la crevette des chiottes et je me suis dit, c'est bien, il faut le faire. Et puis, on m'a mis dans le studio d'animation. Et comme je parlais anglais, on m'a donné accès à des documents secrets de l'armée américaine qui donnait des armements à la France. Alors, on a d'abord fait une enquête sur moi pour savoir si je trahirais. Alors, on a vu qu'en gros, je trahissais pas, et d'autre part, je ne comprenais rien, j'aurais eu du mal à être espion. Mais tous les soirs, ce que j'avais fait dans la journée, on le mettait dans un coffre-fort. Et tout ça, je peux pas vous le montrer.
Personne ne l'a vu.
Ce qui fait que, en sortant de cet apprentissage qui était intéressant, je pouvais pas montrer ce que j'avais fait. Et D'une part, j'ai pas appris l'animation dans une école, d'autre part, aucun studio ne voulait de moi, ce qui fait que je n'ai jamais appris et je ne sais pas comment on fait.
D'accord. Et ce film portait, donc avait vocation, Michel Oslo, avait vocation pédagogique pour dégrader. C'est des films qui portaient sur des bombardements atomiques, c'est bien ça?
Non, on bombardait personne, hein. Juste un atoll. Ça parlait. Il y
Présentier.
avait un armement particulier et aussi les expériences de la bombe atomique. Et je faisais des diagrammes et des choses comme ça. C'était secret, mais c'était un secret de Polichinelle, parce que les Américains mesuraient tout de suite la force de la bombe et le publiaient. Mais enfin, on mettait quand même les chiffres sous clé.
D'accord. Après le service militaire, vous trouvez votre premier emploi dans l'animation assez rapidement?
Oui,
En quoi consistait-il? Où étiez-vous?
c'est quelqu'un qui voulait fonder un studio d'animation et qui travaillait, il était civil et il travaillait dans le cadre du Fort d'Ivry. Et puis il a eu le loisir de m'observer et dans un univers sans responsabilité où tout le monde se fichait de tout, il a vu que j'étais absolument sérieux et que je travaillais. Une personne complètement anormale. Et il s'est dit, je vais l'employer. Mais il n'a pas trouvé de commande et on a fait des choses très ennuyeuses, des diaporamas sur des retraites de veuves et c'était pas tout à fait ma vocation. Et donc au bout d'un moment, je suis parti et puis les choses sont allées mal pendant très longtemps.
Vous avez une première, vous connaissez une première période de chômage, Michel Oslo, que vous qualifiez de pathétique. Pourquoi ce terme?
Est-ce que j'ai dit pathétique? J'aime pas trop être pathétique.
La
Mais
période était
c'est
pathétique, le
peut-être que
chômage
c'est
était.
oui. Ah oui, être chômeur, c'est pathétique. Et c'est d'une certaine manière bien que je l'ai été parce que je sais ce que c'est. Oui, c'est pathétique. Quand vous êtes chômeur, vous n'êtes pas fier de vous-même, et quand vous rencontrez un copain qui dit alors, qu'est-ce que tu deviens? Et vous savez pas quoi répondre. Non, c'est terrible.
Et de quoi vivez-vous pendant cette période? Que faites-vous?
Eh bien, je ne sais pas comment je vivais, mais mes propres parents me disaient, mais est-ce que tu te fais entretenir? Non, non. Je devais faire des petits boulots. Je savais vivre à tout petit feu. Mes parents avaient vécu la guerre et ils savaient vraiment économiser et je l'avais appris. Par exemple, ma mère ne jetait jamais une allumette brûlée parce que elle l'utilisait pour allumer l'autre feu. Et ça, je savais le faire et je pouvais vraiment vivre à petit feu et sans que les gens le sachent. Voilà, et j'ai fait des petits boulots, mais c'était quand même toujours un peu de l'animation. Et puis, à certains moments, j'ai pu aussi profiter du chômage que j'ai absolument pas exploité. Au début, je voulais pas avoir de. Je pensais trouver du travail tout de suite. Je ne voulais pas être payé à ne rien faire. Et je ne me suis pas inscrit au chômage. Et puis, quand je me suis inscrit, on m'a dit, mais c'est trop tard. Et à certains moments, j'ai profité aussi des allocations chômage, ce qui fait que je pouvais continuer à manger tous les jours et aussi à dessiner. Parce que quand je n'avais pas de travail, je continuais à penser, à écrire, à dessiner.
Oui. Et alors la suite est assez surréaliste, si je suis bien informée. Vous avez fait un film de 45 secondes sur les maladies cardiovasculaires qui a donné envie au producteur du film érotique Emmanuel de vous confier en 1976 la réalisation d'une série de télé pour les enfants, Les Aventures de Gédéon. Est-ce que c'est bien ça?
C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc ce producteur s'appelle Yves Rousset-Rouart. Il cherchait des nouveaux scénaristes et il avait une fondation qui proposait un thème et il fallait le traiter et c'était un concours. Et là, le premier, c'était les dangers de la drogue, et j'avais fait un projet qui n'a pas été retenu, mais il faisait vraiment œuvre de producteur. Il m'a demandé de venir le voir, et il m'a demandé combien coûterait ce film. Je ne sais pas si je lui ai dit un prix, mais en tout cas, il m'a dit, vous n'avez pas été retenu, mais je trouve votre projet intéressant et je vais payer les frais, vous allez le faire. Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi un très grand bonheur de rencontrer des gens comme ça et d'avoir cette péripétie tellement positive. Et puis, bon, j'ai fait le petit film de quelques secondes, mais j'ai pu le faire. Et puis l'année suivante, j'y pensais plus. Et c'est cet Yves Rousseyroir qui m'a rappelé en me disant présente-toi encore à cette fondation. Et cette fois-ci, c'était les maladies cardiovasculaires. J'ai fait en 45 secondes, j'ai fait tout comprendre. Et donc j'ai eu le prix. Et ensuite, il m'a fait faire une publicité. La première et la dernière, mais c'était très agréable. J'avais toute une équipe autour de moi. Je dirigeais quelque chose, je faisais un petit film. J'étais content et j'étais payé.
Enfin.
Et puis ensuite, il a eu un projet par quelqu'un, transposer Gédéon, un album qui a eu du succès entre deux guerres, en série télévisée. Il m'a dit, fais-le. Alors, je lui ai dit, mais cet album n'est pas très bon. Rien n'est prêt pour faire des histoires de 5 minutes pour la télévision. Et il m'a dit, fais-le. J'étais bien content, parce que j'étais chômeur. Et là, j'ai eu vraiment de quoi travailler. J'ai eu un salaire tous les mois. Tous les mois, un chèque arrivait. J'ai tout refait, j'ai refait les dessins pour qu'ils soient animables et j'ai inventé 60 histoires de 5 minutes. Donc je me suis mis à devenir scénariste, qui n'est pas tout à fait pas la même chose que auteur. Scénariste, vous êtes un peu forcé et vous devez pondre, pondre, pondre et pondre juste ce qu'il faut. Mais là, j'étais scénariste parce que ces cinq histoires, au début, je ne les voulais pas. C'est pas une décision. Gédéon, c'est le seul film qui a été une demande. À part Gédéon, tout ce que j'ai fait, c'est moi qui ai voulu le faire. C'est moi qui l'ai proposé, c'est moi qui l'ai décidé. Gédéon, je me suis dit, bon, je vais le faire quand même. Et j'ai pondu toutes ces histoires. Les choses se sont mal passées parce que les animateurs étaient mal conseillés. Ils exigeaient par exemple un engagement à vie, alors ils avaient l'intermittence du spectacle qui, à cette époque, était un traitement de luxe pour les gens. Et ils se sont tellement monté la tête. C'était une période un peu religieuse où il y avait une foi absolue, les patrons étaient des ordures et les employés étaient saints et martyrs. Et ce patron n'était pas une ordure du tout. Les gens étaient bien payés, avaient toute une liberté d'aller et venir, bien installés, un hôtel particulier à Neuilly, des fenêtres qui ouvraient sur des arbres. Et dans ces conditions, ils ont fait venir l'inspection du travail. Et l'inspecteur du travail m'a demandé si c'était fou. Et puis le producteur a dit, je ne travaillerai jamais plus avec des animateurs. Et ce qui fait qu'on a tout refermé, on a refermé la boîte. Il avait installé un studio d'animation parce qu'il voulait devenir producteur d'animation. Il y a renoncé. Et puis tout le monde est retourné au chômage. Et cette ouverture qui allait changer ma vie s'est refermée. Et c'est bien dommage. Et Yves Russirouard a continué une carrière de producteur à succès. Il a par exemple créé Les Bronzés qui ont continué et continué.
Et puis Gédéon, donc c'est Michel Oslo, donc c'est 60 épisodes des aventures de ce canton avec un long cou. Toute ma génération l'a vu, revu à la
Ah oui, vous l'avez vu?
télévision. Ah oui.
Parce qu'à
Quand j'ai
l'époque, je
revu le.
pensais que c'était mauvais et que personne ne le voyait.
Enfin, ma génération, mais les plus jeunes aussi, c'est vraiment un personnage qu'on a beaucoup vu. Et ensuite, pour vous, tout s'arrête et à nouveau, vous vous retrouvez dans une seconde longue période de chômage.
Oui.
Mais elle est différente cette fois-ci. Est-ce
Elle est
que vous.
différente parce que avant Kirikou, je suis resté vraiment un an sans trouver de travail et en cherchant réellement tous les jours du travail. Et c'était épouvantable. Mais après Gédéon, je me suis aperçu que j'étais incoulable, que j'étais pas mort, que j'ai livré le film à temps et pas cher, qu'on a redemandé. Du nouveau Gédéon. J'ai même écrit une suite de Gédéon et un comédien qui avait gardé des préparations me les a renvoyées. J'ai découvert que j'avais écrit Gédéon en Afrique. Et j'en
Ouais, que vous
revenais
aviez
pas.
oublié.
Et le système de Gédéon, c'était Gédéon a pas de pouvoir particulier, sauf quand même qu'il nage et qu'il vole, c'est extraordinaire. Et il avait des copains, et le système, c'était, il y a un copain qui est dans une situation terrible, c'est impossible de le tirer de cette situation, et j'ai donc trouvé un truc pour y arriver. Et à certains moments, Gédéon se trouve dans une situation impossible, et je comprends pas comment il va s'en tirer. Et il y a une autre, et il y a une solution à laquelle je n'avais pas pensé, mais que j'avais écrite. Et puis de nouveau, il se trouve dans une situation impossible, et je me dis, mais là, il peut pas s'en tirer. Et il s'en tire. Bon, ben vous, et ben ces histoires, vous les aurez jamais.
Et à ce moment-là, pour la première fois, vous réalisez un film, un court-métrage entièrement seul qui s'appelle Les Trois Inventeurs, qui est une féerie de papier découpé, qui va servir une histoire sombre où la délicatesse et l'inventivité des héros vont être mises à mal. Ce premier film, malgré la pirouette finale, est très très grave.
Oui, bien sûr. Et la pirouette finale n'est pas tout à fait une pirouette. C'est ironique. Je dis quelque chose avant que vous le disiez pour que vous n'arriviez pas à le dire. Alors, ce premier film, Les Trois Inventeurs, est très important pour moi. Après Gédéon, j'avais des réserves d'argent parce que j'avais été payé tous les mois. C'était incroyable. Et ensuite, j'ai eu des retours par la télévision. Quand ça passait à la télévision, j'avais des droits d'auteur. Ce qui fait que j'ai pu m'arrêter au moins un an dans le silence, hein, que comme le producteur, je voulais plus voir d'animateur. En fait, plus voir d'êtres humains.
Oh mon Dieu.
Et j'ai pensé à ce que je voulais faire, j'ai préparé un film qui montrerait au monde ce que j'étais et ce que je pouvais faire. Et je l'ai imaginé comme le chef-d'œuvre du compagnon ouvrier. Voilà ce que je sais faire, je ne suis plus un apprenti, je suis un maître. Et j'ai fait quelque chose qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie et qu'ensuite on met sous un globe de verre. Et c'est le chef-d'œuvre des ouvriers qu'on voit dans la maison des compagnons ouvriers du côté de la mairie de Paris et dans d'autres villes. C'est ça que je voulais faire, une chose extrême, d'un raffinement extrême que peut-être je n'arriverais pas à faire, mais je devais le faire une fois. Et c'est donc un film tout en dentelle blanche, assez bien animé. Je savais pas comment on faisait, mais quand c'était pas bon, je recommençais jusqu'à ce que ça soit à peu près bon. Et j'ai bien tenu le cap du raffinement que blanc sur blanc. Et derrière le côté ravissant 18e siècle que j'aime beaucoup, Là, toutes les dames s'exclament « Oh, mais c'est exquis !» C'est ce que je voulais. Et petit à petit, je montre une humanité détestable et qui existe, l'intolérance et la violence. Et le fait que ça soit ravissant rend la violence encore plus horrible. Et ces deux choses, je les voulais. Des choses à dire et des choses exquises. Et j'y tiens, je veux les deux. Je voulais aussi montrer que je savais faire autre chose que Gédéon, dont j'avais un peu honte, et plus maintenant. Maintenant, je suis un adulte, j'aime l'Anjou et je n'ai pas honte de Gédéon.
Le but du jeu, en déployant tous vos talents, c'est d'attirer les prix et les commandes.
Alors, attirer les prêts et les commandes, les prix et les commandes, des prix j'en ai eu, des commandes j'en ai pas eu.
D'accord.
Et c'est, voilà, c'est comme ça. Je suis pas arrivé à intéresser les télévisions, alors que les télévisions ont besoin d'auteurs. Il y a une grande consommation de choses. J'avais montré que je pouvais faire du raffiné et avoir le prix de l'Académie britannique du cinéma, ce que très peu de Français ont. Avec Gédéon, j'avais fait très rapidement et pas cher la valeur de plusieurs longs métrages, mais non, on ne voulait pas employer.
Et pourtant, alors je ne connais pas ces deux films, vous, en 81, vous faites Les filles de l'égalité et Beyond Hoyle.
Les filles de l'égalité, c'est, je vais le sortir dans quelques années. C'est juste 5 minutes. Un film paillard où on rit à gorge déployée. J'avais aussi, c'est toujours la même chose, surtout à cette époque, on voulait montrer quand on était animateur qu'on faisait pas du Walt Disney et pas du Mickey. J'avais envie de faire une chose pas Mickey du tout, et je l'ai fait. C'est vraiment paillard et c'est vraiment drôle. Mais ça rentre très mal dans les programmes Michel Oslo. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment sorti. À l'époque, il est sorti en première partie de long métrage. Et je le garde pour ce que je vais faire après mon prochain long métrage, où je ferai des petits films courts et où je passerai toutes mes petites envies et je montrerai d'autres films, mais je ferai des nouveaux courts métrages et je finirai par Les Trois Inventeurs d'ailleurs. J'ai bien l'intention de finir par mon premier film qui était ce que je voulais dès le début. J'y suis arrivé.
Beyond Oil,
c'est simplement une des choses que j'ai faites pour gagner ma vie, un film industriel.
D'accord.
Mais d'une certaine manière, tout m'intéresse. J'ai fait aussi l'exploration fonctionnelle de la glande thyroïde par l'iode radioactif, mais ça m'a intéressé. Et ça ne se fait plus d'ailleurs, faire bouffer des iodes radioactifs aux gens pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Et là, c'était la lubrification industrielle. Mais je suis allé à la bibliothèque de l'école des arts et métiers pour me renseigner. Et j'ai fait un petit théâtre où j'ai raconter toute l'histoire de la lubrification à partir de l'image la plus ancienne des bas-reliefs égyptiens avec des gens qui poussent une sculpture sur des rondins et devant quelqu'un qui verse de l'eau. C'est-à-dire, il y a une lubrification pour que ça roule. Et puis après, j'ai fait toute la suite et ça a plu. Et voilà, et puis j'ai eu un prix, mais tous ces petits films ont eu des prix.
Ont eu des prix, oui. Michel Oslo, en 1982, vous réalisez La légende du pauvre bossu, un film qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus dépouillé que Les Trois Inventeurs, avec peu d'animation et pas de voix. Dans un Moyen-Âge cruel, un jeune bossu est amoureux d'une princesse. Il va être moqué, il va être blessé et magnifiquement déployé.
Il ne faut pas tout dire.
Ah, pardon.
Attends. Oh, c'est terrible ça. C'est une surprise.
Donc voilà, c'est la surprise. Je ne vais pas plus loin. Mais les prix pleuvent, en tout cas,
même,
ça on peut
même
le dire.
Déjà, savoir que c'est une surprise, ça gâche. Alors, Au sujet des trois inventeurs et du pauvre bossu, il faut que je nomme d'autres producteurs, Marcel Ponty et Jacques Rouxel. C'est eux qui ont produit ces deux courts-métrages et j'en suis reconnaissant. Marcel Ponty était vraiment la personne qui s'occupait de la marche de la société AAA. Jacques Rouxel était l'auteur des Shadok et voilà, c'était quelqu'un de très très intéressant. Et ils produisaient des courts-métrages parce qu'ils étaient intéressés par le cinéma, par l'animation, et ça passe par le court-métrage. Donc ils ont produit Les Trois Inventeurs, ils ont produit Le Pauvre Bossu. Après Les Trois Inventeurs, je suis passé d'un extrême à l'autre. Les Trois Inventeurs, c'est l'extrême du raffinement et du travail. Le Pauvre Bossu, c'est une sorte de défi inverse. C'est un film d'animation où il n'y a pas de mouvement de caméra, pas vraiment de couleurs, pas de dialogue, pas de commentaires, pas d'animation à proprement parler. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec ce film, j'ai eu le César de l'animation. Devant d'autres films qui, eux, avaient des budgets, beaucoup d'animation, mais qui ont moins touché, parce que Le Pauvre Bossu, comme dans toutes mes histoires, il y a une histoire. Et vous l'avez dit, il y a une surprise aussi.
Et donc, un César, et puis une commande importante, La Princesse Insensible, pour la télévision. Donc pour vous, c'est une réussite sur tous les plans, et vous avez beaucoup de bonheur à tourner ces 13 épisodes, Michel Oslo, pour la télévision.
J'ai beaucoup de bonheur, j'ai le droit de faire un film. Comme pour tous mes films désormais, j'ai inventé l'histoire, j'ai un peu mis au point la technique, parce qu'il y avait très peu de monde et c'était un travail plutôt artisanal qu'industriel, parce que l'animation à l'époque était très organisée comme le travail à la chaîne, avec des tâches compartimentées, des corps de métier compartimentés, et je préfère quand tout le monde sait tout faire et tout le monde est maître de son travail et pas un employé mais un maître, et ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant, le résultat est meilleur.
Merci Michel Oslo.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Corinne Renoux-Nativelle avec Michel Oslo. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.